Bienvenue à la première édition de Par la bande, le talk show du 34e Festival Québec BD. Je m'appelle Raymond Poirier, j'aurai le plaisir de vous accompagner au fil d'une multitude d'épisodes qui s'intéresseront chacun à diverses thématiques. Donc, on part d'une œuvre, cette œuvre nous inspire un thème et on explore donc ce thème en compagnie de différents intervenants et intervenantes, tous liés à la bande dessinée québécoise. Et pour commencer, eh bien, on plonge cette semaine donc dans la vulgarisation scientifique. On aura ici au micro de Par la bande donc plusieurs invités, Richard Valran, entre autres avec les Labora, Martin PM, vulgarisateur scientifique. On aura également Karine Gotteau et Mathieu Lampron autour des oiseaux philo. Et tout ça dans le contexte d'une émission qu'on a choisi de lier et de rattacher à la bande dessinée Vous avez détruit la beauté du monde. Une bande dessinée d'Isabelle Perrault, André Sellard, Patrice Corriveau et Christian Quesnel. Une bande dessinée qui s'intéresse à une thématique qui n'est pas facile, pas évidente à traiter, le suicide, mais par le biais justement de la science et de recherches et de travaux scientifiques. Donc, d'où la thématique. Et également un album qu'on souhaitait amener dès le départ dans le contexte de Par la bande. Pourquoi? Ben parce que hier, pour ceux et celles qui ont regardé les prix BDS Causa, eh ben l'album s'est vu mériter le Grand Prix de la Ville de Québec. Alors donc, pour plonger d'entrée de jeu dans la vulgarisation scientifique, mais nous sommes en compagnie du dessinateur et auteur Christian Quesnel. Bonjour.
Salut Raymond, merci pour l'invitation.
Et ben d'entrée de jeu, en fait. La relation avec Vous avez détruit la beauté du monde, c'est venu des chercheurs eux-mêmes. C'est les chercheurs qui, à un moment donné, se sont dit, ben nous, on veut communiquer nos travaux de recherche et on veut le faire par le biais de la bande dessinée.
Exactement. En fait, ça faisait comme 12 ans, 15 ans qu'ils travaillaient sur le projet, qu'ils faisaient de la recherche. Puis même que c'est André Sellard qui a parti le projet, puis il a pris sa retraite depuis. Puis c'est Isabelle qui a pris le relais avec toute une équipe. Puis, à un moment donné, ils se sont dit comment qu'on va sortir cet article-là pour que les gens puissent le lire, le maximum de personnes. Mais ils se sont dit, il y a peut-être deux, trois personnes qui vont le lire dans des revues scientifiques, tandis qu'en bande dessinée, ben ça pourrait vulgariser un peu, comment je pourrais dire, faire mieux passer le message, puis que les gens ne seraient pas paralysés par les images, l'iconographie qui est liée à ça, parce que les images de Coroner sont insupportables. Moi, je les ai consultées pour travailler, mais moi, je servais un peu d'éponge aussi, pour le lecteur, pour rendre ça vraiment intéressant. Puis une image, les gens seraient restés, comment je pourrais dire, donc, complètement traumatisés par ça, puis ils ne seraient pas allés plus loin. Je pense qu'ils auraient juste ouvert l'article avec les images, ils l'auraient refermé tout de suite, là.
Oui, parce que dans le fond, la thématique elle-même était complexe à traiter. Donc, d'un côté, il fallait voir de quelle manière on aborde la thématique comme telle, et en parallèle, bien, comment on intègre la voix narrative, la bande dessinée, à la volonté de communiquer des chercheurs aussi qui, dans le milieu académique, dans le monde de la recherche, il y a quand même aussi des paramètres par lesquels on communique. Donc, j'imagine qu'il y a eu un défi de mélanger tout ça, de trouver le bon ton autour de tout ça.
Bien, tout à fait. En fait, eux, qui m'ont été présentés, c'est des cas particuliers. Puis ça a commencé comme ça. Puis eux, au début, ils se disaient, ben, on va écrire, puis toi, tu vas dessiner. Moi, j'ai dit, non, le travail d'un auteur de bande dessinée, c'est d'écrire. En fait, le geste du créateur de bande dessinée, c'est écrire de la bande dessinée. Donc, il y a toute une section, il y a toute une portion d'écriture que je me suis appropriée. Puis souvent, ça vient intervenir entre les bouts qu'ils m'ont donnés. En fait, entre les cas particuliers, puis les transitions, bon, ben, c'est fait par la bande dessinée, mais aussi qu'est-ce qui était montrable, qu'est-ce qui ne l'était pas non plus, c'était à moi de le choisir à ce moment-là. Puis j'ai vraiment participé à une montée dramatique. À un moment donné, j'ai montré un peu des montrables, juste pour une page, pour créer un effet de surprise, puis créer cet effet-là de comment je pourrais dire, à chaque page qu'on tourne, des fois, on a une surprise. Mais par la suite, le lecteur avait une tension qui avait été créée chez lui, parce qu'il y avait cet aspect-là, que est-ce que je tourne la page, est-ce que je vais trouver quelque chose d'autre après, mais il n'y en a pas après, mais tout simplement, ça crée cette tension-là chez le lecteur.
Oui, bien en fait, pour refléter la tension qu'amène le sujet aussi, parce qu'on peut pas... On ne peut pas la détourner. Et pour le contexte, peut-être justement, quand on parle de « Vous avez détruit la beauté du monde », c'est le suicide scénarisé depuis 1763 au Québec. Donc, on parle d'un travail de recherche quand même d'une grosse ampleur aussi qu'on a à communiquer. Tu parlais de rapports du coroner. On parle de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de rapports du coroner qui ont été analysés, qui ont été travaillés, qui ont été traités. Donc, toi, tu arrivais à la limite au bout d'un certain processus de recherche, dans le fond.
Oui, ben en fait, eux, il y avait de 1763 à 1986. Puis là, ils ont vraiment regroupé des cas ensemble. Puis c'est vraiment ça que la bande dessinée raconte, c'est qu'il y a une parti. Comme ils ont pris un cas particulier qui représentait, mettons, je ne sais pas moi, des centaines, 500 cas. Ils ont même découvert pendant la recherche des gens qui voyageaient, qui partaient d'Australie, puis qui arrivaient, ils prenaient la ligne, le terminus, là, puis la ligne souvent finissait ou à Québec ou à Montréal. Ces gens-là arrivaient pendant 2 mois de bateau en 1904, puis ils arrivaient dans la chambre d'hôtel, ils allaient s'acheter un habit neuf, puis ils s'ouvraient les veines dans la chambre d'hôtel. En fait, c'était comme, c'est une façon pour eux puis d'affirmer, voici, je vais aller jusqu'au bout, je vais brûler tout ce qui est en arrière de moi. Puis personne dans ma famille va avoir la honte aussi de ma mort. Ben, je vais être très loin dans un pays éloigné. Donc, il n'y a pas de retour possible.
Et donc, dans le fond, à travers ça, ben, ça permet d'aller, parce qu'il y a les données comme telles, dans le fond, les rapports du coroner, les éléments que tu mentionnes, et il y a l'humain derrière la donnée, dans le fond, qu'il faut essayer de rendre, avec le langage peut-être un peu plus académique du recherche, peut-être un peu plus froid, plus factuel. Et donc, dans le fond, vous vous êtes orienté vers un dessin qui était très émotif, qui nous ramenait, dans le fond, à l'humain, à l'émotion derrière ces données-là.
Mais je vais te faire une confession aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'hypersensible, en fait. Puis c'est cette hypersensibilité-là qui m'a servi pour travailler, justement, pour créer cette empathie-là que j'ai pu avoir pour certaines personnes que j'ai vues dans un état où leur propre dignité était atteinte, en fait. Moi, je ne voulais pas atteindre la dignité de ces personnes-là. Je voulais en faire des personnes qui ont réussi. C'est tellement difficile de dire ça. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Puis en même temps, la façon qu'ils l'ont fait témoigner à la fois beaucoup de courage, certains diraient de la lâcheté, mais en même temps, c'était la souffrance qu'ils pouvaient avoir. Parce qu'il y a souvent des thématiques comme ça. Il y a Marie Lalonde, c'était un cas particulier, mais on pense pas à ça aujourd'hui. Une fille mère, c'était une raison suffisante pour s'enlever la vie à l'époque, en 1905. Donc, on pense pas à ça aujourd'hui, mais cet ouvrage-là a cet avantage-là d'emmener des cas comme ça, puis de faire surgir des fois des pressions sociales, des choses comme ça. C'est pas juste la dépression, en fait. Il y a plusieurs causes qui sont liées à cette problématique-là. Puis la recherche, qui était très froide, me permettait, moi, d'arriver, bon, à partir des données, de tout simplement créer quelque chose de plus... d'humaniser ça, si on veut. Puis créer un cas particulier pour illustrer 10, 20, 500 cas, ben, c'était l'idéal pour ça.
Puis tu parlais tantôt d'écriture BD. Évidemment, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il faut prendre les résultats de recherche, il faut prendre le travail, il faut l'amener dans un langage, dans une narration BD. Donc, un peu ce que tu parlais tantôt avec les montées, les montées dramatiques, des éléments comme ça, ça permet d'amener des repères pour le lecteur, d'amener des étapes, d'une construction de récit qui nécessairement ne sera pas la même que dans une communication classique en recherche.
Non, puis vu que c'est un projet, c'est la première fois que je travaille sur un projet où on se promène autant à travers les différentes temporalités. Donc, tout ce qui était présent, enseignement dans la classe universitaire ou des réunions, même qu'on avait fait une mise en abîme, on est nous-mêmes dans le livre en train de parler. Moi, je suis un peu l'idiot utile du récit parce qu'il m'explique tout à moi. Donc, le lecteur comprend par moi c'est quoi le but, les objectifs de la publication. Mais même, tu vois, pour illustrer les différentes temporalités, j'ai choisi des couleurs de papier différentes. Le bleu était plus contemporain, tandis que le sépia vraiment illustrait les cas du passé. Il a vraiment fallu tout prendre les codes de la bande dessinée qui sont présents dans le dispositif, puis les orienter vers la narration de cet ouvrage-là, qui était complexe au départ. Là, parce que la narration, en fait, c'était des discussions entre profs puis avec des étudiants. Mais comment t'emmènes ça? Parce que ça se promène des années 1800 aux années 60. C'est quand même assez... ça peut être complexe au départ.
Et donc, l'idée, c'est que la BD réussit à l'ancrer, à la simplifier, à la synthétiser. Et dans le fond, on revient un peu à ce qu'on disait au départ, dans le fond, à l'amener vers un autre public, vers un plus grand nombre de lecteurs que nécessairement ce qu'il y aurait eu en restant dans un cadre plus académique.
Oui, ben le but, un, c'était de l'humaniser, de rendre digeste ce qu'il n'était pas nécessairement. Puis, comment je pourrais dire? C'était pour vraiment s'adresser à un public le plus large possible, effectivement. Mais c'est sûr que les gens, c'est d'un album quoi, de 70 planches peut-être, on dresse un portrait vraiment très général, en fait, de certains cas, mais c'est pour... Le but, c'est pas tant d'informer sur tous les cas, de tout raconter, mais c'est d'empêcher les gens de se fermer les yeux, en fait, devant cette thématique-là, puis de façon scientifique.
Alors, évidemment, c'est un peu ce qu'on va explorer au fil des prochaines minutes avec différents invités. J'ai envie de te mettre en relation avec d'autres auteurs et autrices qui ont exploré différents pans, justement, de la vulgarisation scientifique autour de sujets qui ne sont pas toujours évidents. Alors, on va explorer ça ici à Par la bande. Mais peut-être avant, question de se donner un peu des idées de lecture, ben, j'aurais envie de céder la parole à Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois pour nous faire quelques propositions, quelques idées de textes, de BD à découvrir autour de la vulgarisation scientifique.
Bonjour tout le monde. Cette semaine, à part la bande, on va vous parler de BD qui parle de science. Moi qui n'étais pas du tout une férue de science, je me rends compte qu'en bande dessinée, j'aime plutôt ça. Ça a été ma découverte des derniers jours. Première BD que je vais vous parler, c'est une série faite par Ubaris qui présente, qui s'appelle la série Ubaris nous explique aux éditions du Lombard. Il y a 3-4 titres disponibles pour le moment. Pour les jeunes encore, s'ils veulent s'amuser, pour réaliser que les sciences sont amusantes, il y a les expériences de mini-gens qui existent, qui sont vraiment drôles. Donc, c'est l'agent Jean quand il était petit et qui se promène de planète en planète. C'est très rigolo. Depuis toujours, on connaît au Québec les débrouillards, depuis toujours, presque toujours, on connaît les débrouillards. Le dernier sorti, Les aventures de Hugo et Marjo par Jacques Goldstein, les carottes sont cuites, encore là, de l'humour scientifique, très amusant pour les enfants. Et ça se prend pas au sérieux, ce qui est parfait. Dans le même ordre d'idée, la liste des choses qui existent de Iris et Caton. C'est sûr qu'il y a du délire là-dedans, mais les premières informations sont toujours vraies. Donc, on parle d'objets du quotidien. C'est très, très drôle. Moi, ça fait des super belles discussions avec mes enfants parce qu'on avait chacun notre objet préféré. Puis on s'en est parlé beaucoup. Dans le même ordre d'idée absurde, on ne peut pas passer à côté de Colvin et Hobbes et son fameux Transmogrifier, qui est la plus belle invention. Avec Calvin, on sait comment une boîte de carton peut devenir à peu près n'importe quoi. Une machine à voyager dans le temps, avec quelque chose qui nous transforme en ce qu'on veut. Une bande dessinée sur Marie et Pierre Curie, radioactive, qui brille dans le noir. C'est un super concept, très intéressant. C'est une belle manière de découvrir ces grands scientifiques. Tiens, un autre petit clin d'œil humoristique. La bestiaire des fruits de Sviane. On peut se demander qu'est-ce que ça fait en science, mais Sviane analyse les fruits d'une manière en les notant selon plusieurs, le goût, l'aspect, la propreté, la commodité. Donc, son expérience de goûtage de fruits était finalement très scientifique. Grand succès cette année, livre super important. La bombe qui raconte l'histoire. On revient un peu à Marie Curie. Ben, donc, l'histoire de l'uranium, de l'invention de la bombe atomique, c'est super intéressant. Gros pavé. Mais franchement, ça se lit super bien et on se sent intelligent. Une nouveauté qui vient juste d'apparaître, qui est une, si j'ai bien compris, c'est un doctorat. C'est le Québec qui est dans mon pays, donc c'est Emmanuelle Dufour qui a réalisé qu'elle avait voyagé partout dans le monde, mais ne savait pas nommer 5 peuples autochtones du Québec, alors qu'elle parlait quasiment des langues africaines. Et a décidé de faire une enquête sur les peuples autochtones. C'est vraiment, encore là, super intéressant. Ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Le dessin est magnifique. Très, très intéressant. Voilà. C'est pas mal ce que je voulais vous parler. Puis je pense que je l'ai fait dans un temps record. Donc, merci beaucoup.
Alors, toujours dans le cadre de Par la bande, on plonge donc maintenant dans une discussion à trois. On a placé un peu les cartes avec Christian Quesnel. Et maintenant, ben, Christian et moi sommes en compagnie du vulgarisateur scientifique et auteur BD Martin PM. Bonjour.
Bonjour.
Et on est également en compagnie de Richard Valran qui nous a offert le tome 3 des Labora tout récemment. Richard, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, ben, peut-être d'emblée, Richard, les Labora, donc troisième tome, tu es un peu tombé là-dedans par hasard, donc dans une BD de vulgarisation scientifique. D'abord publié dans Corium, ensuite en format album chez Michel Quintin. Est-ce que tu avais un intérêt pour la science quand tu t'es lancé là-dedans?
Oui, mais je veux dire, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire une BD avec le magazine Curium avec lequel je collaborais comme illustrateur. Puis je sais qu'ils cherchaient du contenu. Puis ça, l'Elabora, c'était un truc que j'avais dans mon portfolio. Là. C'est un truc que j'avais développé dans le temps que je faisais de l'animation. C'était un concept là, qui était plus qui se voulait de l'animation slapstick là, dans l'époque où j'étudiais l'animation. Puis après ça, quand j'ai vu qu'ils cherchaient du contenu, je me suis dit, ah, l'Elabora. Ça pourrait être intéressant qu'il nous parle de science, dans le fond. Puis c'est là que j'ai commencé à développer le concept.
Et de ton côté, Martin, en fait, tu offres des reportages ça et là sur le web et ailleurs. Tu es tombé un peu par hasard aussi dans la vulgarisation scientifique. C'est plus le scientifique qui est devenu vulgarisateur qui a métissé son intérêt pour la science avec son intérêt pour la bande dessinée?
C'est pas mal ça. Ben moi, j'ai vraiment un intérêt pour le documentaire à la base, le reportage, donc pas seulement sur des sujets scientifiques, mais bon, étant biologiste de formation, j'ai quand même beaucoup d'intérêt pour des questions environnementales, des questions de la faune, donc un peu, c'est ça, j'ai mis un peu le bras dans le tordeur, puis je me suis mis à faire toutes sortes de collaborations avec différents milieux scientifiques, académiques, puis là, ça fait presque 2 ans que je suis en résidence artistique avec le réseau de recherche en santé bucco-dentaire et osseuse, qui a l'air vraiment pas sexy comme ça, mais c'est vraiment super intéressant. C'est un réseau qui a ouvert vraiment une résidence artistique, là, où est-ce qu'on est 2 auteurs salariés, un peu à temps perdu, puis on va faire des entrevues avec différents chercheurs, donc c'est vraiment un intérêt là, que j'ai en général pour la science, oui.
Et qu'est-ce qui fait peut-être la richesse ou est-ce qu'il y a une notion de vocation où on dit, dans le fond, il faut travailler, il faut accompagner les scientifiques, il faut les aider à communiquer leurs résultats? Donc, il y a un désir un peu presque, entre guillemets, de service public à travers ça, que ce soit pour un public jeunesse, pour un public adulte. On se dit ça quand on fait un peu notre pain et notre beurre de la vulgarisation scientifique dans un projet ou dans une démarche plus large?
Mais je pense que quand on fait appel à nos services, on fait appel au fait qu'on manipule le langage de la bande dessinée. Puis c'est ça que les gens veulent avoir, en fait, parce qu'on va chercher, on a une façon, la bande dessinée a cette capacité-là de montrer sur plusieurs dimensions, texte, image et plus, des concepts qui peuvent être assez complexes. Puis la bande dessinée simplifie ça par le visuel. Donc, je pense que ça, c'est un des aspects que les gens viennent chercher. En fait, on fait comme si on traduisait, on fait une idée, mais on la simplifiait aussi, graphiquement.
Et Martin, je t'entends opiner quelque chose qui te rejoint.
Oui, bien, il y a une belle complémentarité entre le texte puis l'image, puis il y a des choses qui sont plus faciles à montrer par le visuel, il y a des trucs qui vont être plus faciles par le texte, puis il y a des sujets aussi, c'est ça, soit par leur complexité, ou je pense à la BD de Christian, tu sais, c'est vraiment pas un sujet évident à aborder. Je trouve que la BD, enfin, il a super bien réussi, puis je pense que la BD, c'était vraiment un beau médium. J'aurais moins vu, par exemple, un documentaire vidéo là-dessus, tu sais, qui aurait été peut-être plus cru ou tu sais, il n'y aurait pas eu peut-être ce côté-là onirique où ça aurait été beaucoup plus difficile à faire d'évoquer le sujet sans le montrer de manière trop crûment ou trop pas aussi respectueuse que ça a été fait dans l'ouvrage. Donc, c'est vraiment, je sais pas, il y a un monde de possibilités, mais avec peu de moyens, dans le sens que, tu sais, une table à dessin, un crayon ou une tablette graphique, on peut faire beaucoup. Comparativement, c'est ça, je ne sais pas, du tournage ou d'autres types de médias.
Et j'imagine que ça dépend de la capacité de l'auteur, puis on en parlait un peu, à filtrer l'information, à la synthétiser, à l'amener dans un langage BD aussi. Ça, c'est pas nécessairement une voie facile. Quand on fait, par exemple, Richard, tu as quoi, une planche, 2 planches, 3 planches, pour expliquer des concepts qui sont parfois assez complexes, dans le contexte d'un public plus jeune, il faut réussir à bien l'amener aussi.
Bien, c'est sûr que c'est une commande qui est un peu différente là, dans le cas d'Elabora, parce que le but, c'est vraiment de divertir en premier lieu. C'est ce que Curium avait demandé. Donc, évidemment, mon pari, c'est de dire que la curiosité, c'est intéressant. T'sais, je veux dire, les jeunes sont curieux puis ont envie d'apprendre. Donc, si en plus, on peut apprendre quelque chose en s'amusant, bien, tant mieux. Mais moi, je pars tout le temps du principe, je vais prendre un sujet qui me tente. Des fois, c'est des lecteurs qui vont me l'avoir proposé, mais souvent, de plus en plus, c'est des sujets que je me dis, ah, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant. Si, par exemple, je parle du rire, ou récemment, j'en ai fait un sur les aurores boréales, tout ça. Donc, tu sais, ça part de la curiosité. Puis après ça, tu fais une petite recherche. Évidemment, j'ai 2 pages, hein, faut y aller avec l'espace qu'on a. Ça, si tu as un album complet ou si tu as 4 pages ou 2 pages, moi, c'est 2 pages à tous les mois. Puis après ça, j'essaie de me dire, bien, je me limite à 3-4 affaires que je vais apprendre aux jeunes. Donc, puis après ça, je fais de l'humour autour de ça. Donc, je m'amuse. Là.
Et Martin, de ton côté, est-ce qu'on se donne un cadre aussi un peu comme ça? Évidemment, on est dans des reportages qui vont être lus par des adultes. C'est pas un peu le même contexte côté public, mais en même temps, l'espace reste limité, donc on ne peut pas tout dire de la recherche.
Oui, ben, ça dépend des projets, là. Je fais aussi beaucoup de projets très courts, là, des fois avec des partenaires en milieu universitaire de 2, 3 pages. Donc là, c'est vraiment okay, un message, là, c'est quoi le s'il y a une chose à retenir, tu sais, qui est importante, puis il faut se concentrer là-dessus. Si on veut quand même faire une petite histoire, quand même, tu sais, une mise en récit pour que ce soit intéressant à lire. Le défi aussi, c'est que ce ne soit pas purement didactique, tu sais, juste un truc hyper pédagogique. On en a vu là, des trucs en BD un peu stéréotypés, là, parce que c'est vraiment très documentaire, mais plate. Fait que ça, faut quand même qu'il y ait une mise en récit, puis c'est ça qui est le défi avec l'espace qu'on a. C'est sûr que dès que tu as 7, 8, 10 planches ou un album complet, ben là, tu peux plus faire respirer une mise en récit qui va accrocher le lecteur, puis après, tu vas être capable de transmettre des faits ou des données factuelles peut-être un peu plus durables. Au premier plan.
T'sais. Oui, mais en fait, j'imagine que c'est un peu la distinction entre la bande dessinée versus un outil de communication scientifique. Dans le fond, on ramène, vous faites des BD et oui, on communique la science, mais c'est l'objectif primaire, c'est la bande dessinée, c'est le récit, c'est la mise en récit de la science et pas la communication scientifique pure et dure. Dans le fond.
En fait, il y a des pistons sur lesquels on peut appuyer. Richard parlait de l'humour tantôt. Ben, comme Richard utilise l'humour, moi, l'équivalent, ce serait les émotions, en fait, dans le travail pour « Vous avez détruit la beauté du monde ». Puis je pense que c'est vraiment là qu'on vient ajouter la touche d'intérêt, justement, qu'on vient réchauffer le médium, si on veut, parce que sinon, ce serait froid, ce serait quelque chose des données pures. Donc, pourquoi pas faire un article à ce moment-là? Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'exemples, comme Martin disait, que des bandes dessinées qui sont très drabes, en fait, là, qui sont très, très, très techniques, très juste... aujourd'hui, je vous apprends que... Mais ça passe juste plus, parce qu'il y a tellement de la bonne BD qui se fait. On peut tellement faire de la bonne bande dessinée qui rend l'apprentissage agréable. C'est ça le but d'utiliser la bande dessinée, en fait. Fait que si on lit une BD et que c'est pas agréable, c'est raté.
J'imagine que le choix du sujet y est pour beaucoup, l'intérêt qu'on a pour le choix. Dans le fond, Richard, tantôt, tu disais, ben, on y va une fois par mois, il faut que tu trouves une thématique, un sujet. Ben, faut que le sujet inspire une amorce et tu as un peu la liberté de choisir de ce côté-là. Donc, tu vas choisir quelque chose qui te branche, qui t'allume ou pour lequel tu as une idée.
J'essaie de varier aussi parce que c'est à tous les mois. Là, donc, j'essaie d'avoir une espèce de variété, d'aller dans des trucs plus scientifiques hardcore. Là, donc, ou alors, après ça, aller plus vers des fois l'écologie, des fois un peu l'informatique. Tu sais, j'essaie de varier vraiment au fur et à mesure parce que au début, j'y allais beaucoup vraiment plus comme des trucs qui sont liés à le corps humain, ce genre de trucs-là. Mais après ça, je me suis rendu compte que les laboratoires pouvaient parler vraiment de tous les sujets. Donc, j'essaie de penser aussi à qu'est-ce qui pourrait intéresser mon lectorat, mais aussi, j'y vais beaucoup, c'est un peu égoïste, là, mais c'est ce que j'ai envie d'apprendre. Je me dis, si moi, j'ai du fun à apprendre ces choses-là, je vais peut-être ça va être plus facile de le traduire puis de rendre ça de façon ludique là, avec les lecteurs.
Tandis que dans votre cas, Christian, Martin, c'est des sujets qu'on vous amène. Souvent, en fait, tu parlais de bucco-dentaire, donc côté médical, le suicide dans le cas de « Vous avez détruit la beauté du monde ». Donc là, dans ce cas-ci, on vous amène un sujet et il faut que vous trouviez une façon de le mettre en scène sans dénaturer, j'imagine, les assises scientifiques puis la volonté de communication des chercheurs.
En fait, c'est exactement ça ce que tu dis. C'est... On reçoit une commande, puis à ce moment-là, moi, la première question que je pose avec la commande, c'est, bon, ils disent, c'est quoi le sujet? Quand on me dit, voici, on a un livre à faire, une étude sur le suicide, physiquement, j'ai reculé d'un pas, là, quand on me dit ça, là, vraiment, parce que c'est comme tout le monde, c'est un peu tabou, là, puis dans ma famille, il y en a eu, puis bon, des amis. Mais finalement, la question que j'ai posée, c'est, est-ce que j'ai pleine liberté? Est-ce que j'ai la liberté totale narrativement ou je suis une extension de tes bras puis tes jambes pour le faire? À ce moment-là, si j'ai pleine liberté, il n'y a pas de problème parce qu'à ce moment-là, on peut déployer tous les moyens qu'on a au service de la narration, au service du sujet aussi.
Puis ton côté, Martin, est-ce que c'est comme ça aussi? Ou...
Dépendant des projets, il y a des défis. il y a des chercheurs, il y a des scientifiques qui ont plus de facilité à lâcher prise puis à nous faire confiance, je pense, puis il y en a d'autres qui sont... tu sais, les scientifiques sont dans un mode de communication particulier anti-scientifique, puis c'est justifié, tu sais, ça se comprend, mais ils ont de la difficulté à se déprogrammer quand vient le moment de parler à un public plus large, puis à laisser tomber toutes les petites nuances qu'ils doivent faire, le conditionnel, puis ou des détails qui ne sont pas importants pour l'espace qu'on a. Donc, il y a souvent un travail d'éducation. En tout cas, moi, j'ai souvent un travail d'éducation à faire de ce côté-là. Généralement, ça se passe très bien là, parce que là, je commence à avoir l'expérience de travailler sur ce genre de projet-là. Mais c'est quand même, c'est ça, il y a un accompagnement à faire souvent avec les professionnels là, pour les amener à comprendre c'est quoi la communication, bien, c'est quoi la BD puis c'est quoi la vulgarisation.
J'imagine aussi, dans votre cas, Richard, Martin, Christian, vous n'êtes pas dans la même dynamique de travail non plus avec les auteurs ou avec les chercheurs. Martin, de ton côté, donc le chercheur va te confier sa recherche, tu vas partir avec ça, tu vas lui proposer quelque chose. Dans ton cas, Christian, c'est les auteurs qui sont venus et vous avez écrit ensemble, dans le fond, le livre, la bande dessinée. Richard, dans ton cas, tu fais des recherches, tu vas chercher l'information et ensuite tu la fais valider, entre autres, par l'équipe de Curium. Est-ce qu'il y a une méthode plus facile, plus difficile par rapport à votre approche de travail, des leçons que vous avez acquises peut-être en terminant?
Ben, c'est un défi de synthétiser, en fait. Le truc, c'est toujours de synthétiser. Pour l'avoir expérimenté aussi avec des chercheurs, comme par exemple, récemment, je viens d'en faire une, BD plus adulte, là, avec le magazine Quatre-Temps là, de la revue du Jardin botanique, où il fallait faire une BD sur l'architecture des arbres. T'sais. Donc, c'est un sujet plus aride. Mais en même temps, c'est intéressant parce que l'architecture des arbres, c'est des gens qui dessinent des arbres. Donc, il y avait l'aspect dessin là, qui était là, mais vraiment dans l'aspect scientifique. Mais j'ai trouvé ça vraiment plus difficile parce que il y a beaucoup plus de contenu puis c'est aussi l'approche que tu prends aussi, parce qu'avec les laboratoires, ce que je trouve le fun, c'est que j'ai des personnages qui sont un peu qui permettent de mettre en scène ce que je veux montrer. Alors que là, souvent, quand tu pars du travail d'un chercheur, tout ça, ben c'est tes personnages, c'est qui? Souvent, ce qu'on va voir, c'est ben, l'auteur qui se met en scène dans la BD en train de faire la recherche. Souvent, c'est quelque chose qu'on va voir. Ou sinon, ben, tu mets en scène ton chercheur, mais là, à ce moment-là, est-ce que le chercheur va être à l'aise d'être devenir un héros d'une bande dessinée? Je sais pas, je suis curieux de voir votre point de vue là-dessus.
Ouais, je te dirais, des fois, c'est difficile d'illustrer justement les chercheurs avec qui tu travailles, comme dans « Vous avez détruit la beauté du monde ». Au début, Isabelle n'était pas trop certaine, les deux autres, ça allait, mais Isabelle, c'était plus difficile. Puis finalement, c'est accepté. En fait. C'était un processus, j'imagine, ça a contribué à un certain processus pour elle. Pour répondre à ta question par rapport à l'écriture, c'est jamais la même chose quand je collabore avec des gens. C'est ça qui est drôle, parce que pour Mégantic, que j'ai fait après « Vous avez détruit la beauté du monde », mais qui n'est pas encore sorti, l'autrice, Anne-Marie Saint-Cerny, elle m'a donné des feuilles, 8 et 11, puis des spreads. On a travaillé par double planche. Puis elle a dit « Voici la thématique que je vais travailler. » Juste la thématique. L'extraction du pétrole au Dakota du Nord. L'arrivée du train à Farnham. Bon, il y avait tout ça. Puis moi, je devais écrire en bande dessinée, en images. Puis elle est venue compléter avec le texte par la suite, les dialogues, tout ça. Fait que ça, c'était un processus aussi assez enrichissant. Je te dirais vraiment, à chaque collaboration, ça change. Ça change totalement. Mais imagine, là, je reçois juste des feuilles 8 et 11 avec 2-3 mots écrits dessus. Puis je suis parti de ça.
Martin, de ton côté?
Moi, j'essaie d'amener les chercheurs, comme je disais, à cibler leur message, puis c'est quoi vraiment qu'ils veulent transmettre, c'est quoi qui est important dans leurs travaux. Après ça, je me laisse la place à l'interprétation, mais quand même assez tôt dans mon processus de création, storyboard, puis à chaque étape, je vais pas nécessairement valider, mais essayer de donner quand même un espace de co-construction. Tu sais, quand même leur montrer assez tôt pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils pensent du concept, qu'est-ce qu'ils pensent de l'angle que j'ai donné. Puis la plupart du temps, ça se passe assez bien, mais tu sais, il faut qu'il y ait quand même un espace pour que eux puissent quand même sentir qu'ils ont un certain mot à dire, mais habituellement, ils sont assez contents de voir un regard extérieur aussi sur leur travail, puis d'avoir vraiment, c'est ça, une lunette, là, quelqu'un qui prend un pas de recul par rapport à qu'est-ce qu'ils font. Là. Ça donne quelque chose d'intéressant pour eux.
Eh bien, Martin PM, Richard Valeran, merci d'être passé à Par la bande. Et on poursuit l'émission Par la bande et on plonge maintenant peut-être autour d'une discussion en lien avec les sciences sociales, les sciences humaines. Donc, Christian Quesnel qui est évidemment toujours avec nous, mais maintenant, on est rejoint par Mathieu Lampron et Karine Gotteau, respectivement dessinateurs et scénaristes sur Les oiseaux philo, donc tome 1 pose philo, qui est arrivé il y a quelque temps chez les libraires. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, les oiseaux philo, c'est une initiative qui est née d'une collaboration, dans le fond, entre le magazine Les Explorateurs et des chercheurs en philosophie associés à l'Université de Montréal, dans lesquels vous avez été mutuellement interpellés et dans lesquels vous vous êtes plongés.
Oui, ça a d'abord été moi qui ai été interpellé pour développer la série puis le visuel. Puis, donc, on a développé avec Félix puis l'équipe des explorateurs le concept comme tel, même la mise en scène des pages. On devait réfléchir à comment on voulait communiquer tout ça aux enfants. Et au début, je m'occupais de la scénarisation au début et j'avais déjà travaillé avec Karine sur un autre projet qui s'appelait Les Mutamatac. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que dans ma façon de scénariser, j'essayais de faire comme Karine, donc j'ai appelé Karine. C'est comme ça que Karine est arrivée dans le projet. Donc, je suis allé chercher la vraie Goto.
Et dans le contexte des oiseaux philo, donc on est dans une logique de communiquer des principes de philosophie, des principes d'éthique, des principes de morale à des jeunes. J'imagine que c'est un beau défi, dans le fond, de trouver la bonne manière de dire les concepts, de les présenter, de les amener pour ce public-là aussi.
Bien, c'est tout là le défi, en fait, hein, parce que nous, on n'est pas philosophes aussi. On va vraiment chercher l'expertise auprès de nos deux grands philosophes. Et puis, ouais. En fait, c'est eux autres qui, justement, vont nous recadrer un peu quand on prend le champ philosophique, ils nous remettent dans le droit chemin. Mais nous, on est comme plus responsables d'habiller le concept, de le rendre accessible aux enfants, surtout de le cadrer dans leur propre réalité, dans ce qu'ils vivent, parce que le concept pourrait être présenté à des adultes sans problème. Là, c'est pas si différent que ça. Mais on essaie juste de le faire vraiment l'incarner par nos personnages puis par une réalité que les enfants connaissent.
Ouais. Puis c'est ça. En fait, les philosophes qui nous accompagnent sont là, évidemment, pour... en fait, on a toujours une réunion d'équipe qu'on essaie de trouver les sujets qu'on veut aborder. Puis les philosophes sont surtout là pour éviter qu'on tombe dans la psychologie, ce qui était un peu notre défaut au début, puis l'ajustement qu'on a dû faire. En philosophie, ce qu'on comprend, à la longue, c'est quand même peut-être 3 ans qu'on le fait, il ne faut pas donner les réponses, en fait. Il faut ouvrir le débat, il faut poser des questions. Donc, on n'a pas, c'est pas bien, c'est pas mal, il faut juste ouvrir le débat.
Oui, donc de facto, dans le fond, et c'est un peu, j'ai envie de faire un parallèle avec vous avez détruit la beauté du monde. Dans votre cas, dans le fond, on place le lecteur dans une lecture active, on lui pose des questions, on l'interpelle, et il y a quelque chose qui se poursuit d'un point de vue réflexif après la lecture. Autant que dans vous avez détruit la beauté du monde, ce qui se poursuit après la lecture est dans le volet émotif. Mais nécessairement, j'ai l'impression que vous êtes dans des ouvrages de relations, un côté relationnel, dans le fond, presque à travers ça.
En fait, nous, on donne beaucoup d'informations au lecteur dans le livre, puis pour faire passer ce flow-là, puis en même temps, le type, le sujet du livre, on fait passer les émotions, puis on essaie on structure les choses, il y a une montée dramatique, tout est pensé en fonction de pouvoir justement l'informer, mais pas le submerger sous un flot d'informations, ni d'émotions d'ailleurs. Il faut doser, c'est une question d'équilibre, tout ça.
Une question d'équilibre que vous ressentez aussi de votre côté?
Bien, moi, je pense que c'est la beauté de la BD. Peut-être, Karine, tu peux... justement, c'est de faire rentrer la matière puis la réflexion doucement, subtilement, donc...
Ben, c'était là, nous, en tout cas, nous, notre défi, c'est un peu pour ça. C'est parce que, justement, dans les questions philosophiques, il n'y a pas vraiment de réponse qui est donnée parce qu'on veut, en fait, inviter les enfants à développer leur propre pensée. Donc, les réponses ne sont pas données, sauf qu'il nous faut quand même une histoire. Il faut quand même que les enfants se retrouvent dans une histoire. Donc, souvent, c'est ça un peu notre défi qui finalement, on aime bien. Là. C'est de faire une histoire qui se boucle. Il y a un début... un milieu puis une fin, sauf que le questionnement, par contre, il reste là à la fin. Il n'y a pas de réponse. Les enfants sont plus témoins d'échanges entre les personnages. Puis ça leur permet de se positionner, eux, d'évaluer leur propre opinion face au concept qui est soulevé. Ils peuvent s'identifier à un personnage qui a la même opinion qu'eux, ou ils peuvent justement intégrer des nouvelles perspectives qu'ils n'avaient pas pensées. Donc, tout ça dans le but de développer une pensée nuancée, plus complexe, où le doute est permis.
Mais au niveau structurel, comment vous vous y prenez pour justement, vous avez le début puis la fin, mais structurellement, au niveau du développement du corps, du récit, c'est quoi le point de départ, en fait? De où vous partez?
Souvent du sujet comme tel. Après, on essaie de se donner une ligne de direction pour pouvoir traiter le sujet. Je ne sais pas, Karine, dans le fond,
Ben oui, ça part du, on part de la question philosophique. On va dans le monde des idées là-dedans. Ouais. Et puis après, ben justement, on va essayer de trouver un fil conducteur qui est dans la vie des oiseaux philo, qui se passe à l'école ou sur le, avec les amis. Et puis, ben l'enfant ne se rend pas nécessairement compte là, qu'il y a un dialogue, un questionnement philosophique, mais il y a une histoire qui cohabite. C'est vraiment comme un peu parallèle. Il voit qu'il y a il voit l'échange entre les personnages et il constate que chaque personnage peut avoir une opinion différente. Puis ils restent des amis. Ils peuvent rester amis tout en ayant des opinions différentes.
Oui, c'est important ça de nos jours, oui.
Oui, c'est ça. Donc ça, il constate ça que même quand ça brasse un peu puis que chacun dit son opinion, bien finalement, ça relance un, l'autre. Ils vont chercher des solutions, ils vont s'interroger sur un sujet puis ils vont chacun essayer d'être créatif dans leur pensée, tout ça. C'est comme ça qu'on le mène. Puis c'est un peu, je pense, la même chose avec la BD sur le suicide. Je trouve que ça permet de sortir, de l'incarner plus. Sinon, ça va être une problématique, mais c'est tellement humain en même temps. Que je sais pas, là, moi, quand j'ai lu ton projet, c'est ça que je me suis dit un peu, c'est pas si loin, parce qu'on essaie de l'incarner, on essaie de mettre un peu d'humanité, je sais pas si je me trompe, mais...
Ouais, puis le point que tu as apporté tantôt par rapport au fait que les jeunes, les enfants s'en aperçoivent pas nécessairement, c'est une question philosophique, tu sais, ça, c'est un coup de chapeau pour ça, vraiment, parce que c'est, à la lecture, là, moi, je la vois, parce que je suis adulte, là, bon, je la vois, mais... Je me mets à la place d'un enfant, puis tout à fait, là, ça passe super facilement. Il y a même été question, à un moment donné, que je travaille avec un éthicien, en fait, sur une bande dessinée. Donc, ça m'a beaucoup interpellé à ce niveau-là.
Puis j'aime beaucoup la notion d'incarner, en fait, parce qu'au bout du compte, c'est un peu un défi que vous avez dans les deux cas, où on se retrouve avec des concepts sociologiques ou des concepts philosophiques qui sont abstraits. Et dans le fond, dans le cadre de la vulgarisation scientifique, même avec l'ADN, même avec l'infiniment petit, on a quand même quelque chose qui existe, la cellule et le reste. Mais là, on est vraiment dans le monde du concept ou du populationnel, où ça devient peut-être plus difficile de l'illustrer ou de l'amener, donc de trouver ces assises-là pour permettre cette incarnation-là du concept dans la BD elle-même.
En fait, il y a certains endroits dans la bande dessinée où vous avez détruit la beauté du monde qui étaient plus... il fallait pas trop j'en montre. Pour pas avoir un modus operandi, justement, de comment faire tel acte ou tel autre acte. La voiture avec les tuyaux, je me suis fait dire, ouais, c'est proche. Donc, on était vraiment à la limite de ça. Donc, aussi, la bande dessinée, c'est quelque chose de montrer des concepts. C'est vraiment, c'est ça qui est intéressant, qui est fort avec la bande dessinée. Mais en même temps, c'est d'avoir une certaine retenue aussi, puis de omettre certaines images pour laisser le lecteur faire le lien, parce que le moteur du récit, c'est vraiment le lecteur, en fait.
Quelque chose de ressenti, j'imagine, dans une échelle plus jeunesse dans votre cas, mais où on choisit justement ce qu'on montre, où on doit simplifier un concept qui est extrêmement complexe aussi, j'imagine, dans votre cas.
Ouais, puis nous, il y avait toute la question du genre au début. Les personnages sont comme ça pour éviter justement qu'on associe une façon de penser à tel type de personne. Donc c'était vraiment un questionnement qu'on a eu au début quand on a développé juste le visuel. C'est comment pouvoir parler du sujet sans nécessairement genrer les interactions ou les réflexions des personnages, dans le fond. Donc nous, ça a été quelque chose en amont, puis finalement, ben, ça a fait un truc assez coloré où tout le monde peut s'associer à n'importe quel des personnages. C'est pas genré du tout.
Oui, ça ne s'atteint pas le jugement au départ. On n'a pas d'a priori, c'est des oiseaux.
Exactement, oui. Puis on essaie quand même aussi de toujours les mettre dans des... je compléterai par rapport à ce que tu disais tantôt, Karine, à les mettre dans des contextes aussi qu'ils connaissent. Le ski, l'école, la cour de récréation. Donc, on les met vraiment là-dedans. Donc, tout de suite, ils peuvent au moins reconnaître la situation, si vous voulez, qu'ils vivent dans la vraie vie. Puis pour accentuer la réflexion, on a quand même intégré pas juste de la BD, on a mis des pages de gags, des entrepages qu'on appelait. Puis c'est un peu ça, c'est un peu avec cet outil-là qu'on relance le débat. Donc... Moi, j'appelle ça c'est un peu comme l'amour avec un grand A. Je ne sais pas si les spectateurs sont dans... J'ai toujours ça aux éditeurs, c'est dans le temps des émissions où tu avais une émission qui présentait un concept, puis après ça, la discussion arrivait. Bien, nous, c'est un peu ça, on met la table pour quelque chose, pour une discussion, et dans les petits gags qu'on met après entre pages, bien, c'est là que la discussion doit partir.
Juste rebondir sur ce que vous disiez, les deux, pour des objets, des contextes qui sont familiers. Ce qui me frappait beaucoup avec la recherche sur la mise en scène du suicide, c'est les photos d'archives que j'ai eu accès, les archives du coroner, c'est les objets de la banalité du quotidien qui côtoient ça. C'est puis ça, j'essaie de le reproduire dans le livre aussi, transposer dans l'objet un peu le drame humain qui est vécu pour pas montrer justement ce qui est pas montrable. Fait que, vois-tu, c'est ça, les objets à côté prennent une importance incroyable parce qu'ils ont une part d'identification du lecteur par rapport à ça.
Puis la bande dessinée, tout le côté de ressenti là, par rapport à ton projet, je trouve que justement, c'est l'illustration, les couleurs, on ressent quelque chose. Là. Puis un peu, c'est ça, les sciences sociales. En fond, la bande dessinée, elle permet ça, d'aller chercher le ressenti aussi, sans nécessairement les mots. Là. Je trouve que c'est ça, ça apporte énormément.
Évidemment, dans le cas des oiseaux philo, donc une belle introduction, une belle plongée donc dans la philosophie pour le jeune public. Karine Gotteau, Mathieu Lampron, merci beaucoup d'être passé à Par la bande.
Plaisir.
Et Christian Quesnel, avant de se laisser, peut-être contextualisons un peu la démarche de « Vous avez détruit la beauté du monde », donc pour toi, ça s'inscrit aussi un peu dans un triptyque, oui, dans le scientifique, mais aussi tranquillement vers le documentaire.
Oui, je touche beaucoup au documentaire. C'est drôle parce que tout de suite après, vous avez détruit la beauté du monde. On m'a demandé de travailler sur Mégantic, le drame de Mégantic, qui était tout à fait dans la même lignée au niveau du l'utilisation du dispositif de la bande dessinée dans le drame, puis aussi un côté délicat parce que ça fait pas si longtemps que ça s'est passé, puis tout ça. Puis là, présentement, lui est terminé, mais je vais travailler... je suis en train de travailler aussi sur Dédé Fortin. Donc, ça aussi, veut pas, c'est pas tout un livre comme ça parce qu'il y a une période très, très joyeuse dans la vie d'André Fortin. Puis d'ailleurs, c'est ça. C'est le contraire de la mise en scène suicidaire parce que la mise en scène suicidaire d'André Fortin a comme mis un couvercle sur tout le reste qui était extrêmement joyeux quelque part. Donc, c'est de détricoter ça puis de ramener vraiment ce qui a été lui comme homme. Puis j'ai tellement de documents que je peux le faire parler lui-même en utilisant ses propres textes.
Et évidemment, en lumière de tout ça et en lumière des discussions qu'on a eues, évidemment, on parle de vulgarisation scientifique, de science. On déborde un peu vers le documentaire aussi à travers tout ça. Est-ce que tu as des suggestions de ton côté comme auteur, comme lecteur, des idées de lecture à proposer aux gens qui nous écoutent?
Bien, en fait, je trouve que comme introduction à la BD, à la bande dessinée documentaire, je trouve que Planche fait un super travail. Il y a des chroniques aussi. La revue Planche, moi j'en ai découvert comme ça. On a vu Martin PM tantôt. J'ai aussi un album de bande dessinée qui s'appelle Un printemps à Tchernobyl, qui est vraiment incroyable, d'une grande finesse. Et en même temps autobiographique, vu que c'est l'expérience du dessinateur, de l'illustrateur à Tchernobyl comme tel. Fait que ça, c'est des titres que je trouve intéressants, effectivement. Il y a eu un titre aussi, j'oublie toujours le titre, mais ça a été publié chez Éco-Société. Samson Dunlop.
Oui, comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner.
Merci beaucoup. Et celui-là, je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Avec humour, légèreté, on aborde aussi des concepts, quand on parlait de concepts tantôt complexes, qui sont difficiles des fois de comprendre comme ça textuellement. La bande dessinée, là, c'est une belle démonstration de ce que la bande dessinée est capable de faire pour schématiser puis informer les gens.
Oui, ben en fait, puis je pense, j'ai l'impression que tout ce qu'on a discuté au fil de la presque dernière heure, dans le fond, c'est au bout du compte sur la capacité, l'intérêt du médium pour présenter simplement ou efficacement des concepts qui peuvent être extrêmement complexes, qui peuvent être extrêmement denses, qui peuvent être extrêmement sensibles aussi, mais dans le fond, ça devient un beau médium pour passer tout ça, pour le proposer.
Oui, je crois que la bande dessinée a cette capacité-là au niveau narratif, de venir renforcer un message qui peut être aride, en fait, qui peut être difficile. Mais la bande dessinée, des fois, quatre cases noires, quatre carrés noirs sur un fond blanc, ça peut faire toute la différence. Ça peut participer à un langage. Puis ce côté systématique de cette narration-là en bande dessinée, parce que c'est vraiment un langage qu'on utilise, ça peut, il y a tellement de potentiel qu'il n'a pas encore été pleinement exploité, là, je suis convaincu. Il y a tellement de belles choses qui se font. On vit une époque vraiment incroyable à ce niveau-là parce qu'il y a tellement de trouvailles.
Alors, des découvertes à faire. Christian Quesnel, merci beaucoup.
Merci de l'invitation, Raymond.
Et c'est ainsi qu'on conclut ce premier épisode de Par la bande, donc ici à la Maison de la littérature de Québec. Donc, une présentation qui est faite dans le cadre du 34e Festival Québec BD. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine. On va vous amener sur la thématique du futur après la catastrophe. À très bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute.